Et tout de suite, on va parler politique avec une autre femme qui n'a pas non plus sa langue dans sa poche, puisque votre invité, Jean-Baptiste Eloui, sur Sud Radio Plus l'Esprit Libre, c'est Nathalie Arthaud, la porte-parole de Lutte Ouvrière. Bonjour Nathalie Arthaud.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Très bien.
C'est un jour
Merci.
Un peu particulier aujourd'hui pour la gauche.
Oh, écoutez, effectivement, on en fait tout un spectacle. Honnêtement, je suis assez insensible à ce genre de spectacle.
D'ailleurs, vous venez de nous confier en off que vous n'avez même pas regardé l'investiture de François Hollande. Ouais,
ça vous intéresse pas trop?
Je crois. J'ai fait d'autres choses aujourd'hui, comme des millions de gens, je pense.
Justement, depuis 10h ce matin, la gauche est officiellement au pouvoir, de nouveau. Et est-ce que vous êtes quand même heureuse?
Écoutez, cachez votre joie.
Oui, parce que justement, moi j'ai bien sûr en mémoire et je crois aussi comme bien d'autres travailleurs sur le cœur, hein, la politique a été menée justement par cette gauche quand elle était au pouvoir et certes, on n'a plus à se coltiner l'arrogance et la morgue d'un Nicolas Sarkozy, mais en même temps, je crois que quand on est travailleur et qu'on gagne son pain en devant aller au boulot tous les jours, eh bien on sait aussi que même quand la gauche est au pouvoir, c'est pas plus facile et que parfois même ça peut être plus compliqué, mais parce qu'il y a la crise, parce que voilà, la politique patronale continue de s'abattre sur nos têtes et voilà, la politique de la gauche au pouvoir, elle a aussi beaucoup déçu, elle a aussi beaucoup désorienté et moi j'ai surtout ça en tête.
Et vous n'y croyez plus? Vous pensez qu'elle va continuer à décevoir?
Je crois surtout qu'au-dessus de tous ces dirigeants politiques, qu'ils soient de gauche ou qu'ils soient de droite, il y a un pouvoir qui s'impose, c'est le pouvoir de l'argent, c'est le pouvoir patronal. Là, c'est sûr que ça fait une semaine que finalement on nous met en spectacle cette passation de pouvoir, ce changement au sommet de l'État. Mais la réalité, c'est que la politique qui va nous tomber dessus, elle est quand même en train d'être, elle est décidée déjà.
Pour vous, c'est du théâtre. Rien n'a changé.
Dans les grands groupes capitalistes, de la finance, de l'industrie, et c'est quand même bien celle-là qui va, y compris, peser sur nos salaires, sur les emplois, sur nos retraites, sur les conditions de vie au quotidien. Et c'est de ça dont on devrait parler.
Mais Nathalie Arthaud, François Hollande a fait beaucoup de promesses, quand même, de changements qui sont concrets, en tout cas dans son programme.
Je ne trouve pas. Pour les travailleurs, non. Pas beaucoup de promesses. Lesquelles? Ce retour à 60 ans pour ceux qui ont travaillé, qui ont commencé à travailler à 18 ans et qui ont donc 41 annuités et demie, on sait que c'est au compte-gouttes. Et on ne sait même pas si les 41 annuités, ça sera des 41 annuités cotisées ou validées. C'est-à-dire si on va prendre en compte, y compris les arrêts maladie, on ne le sait toujours pas.
Alors, chômage,
la réalité, c'est que ça va concerner une toute petite minorité et qu'en aucun cas, on revient sur le recul qui a été imposé par Nicolas Sarkozy, qu'ont combattu des millions de travailleurs dans la rue, en faisant grève, en manifestant. En aucune mesure, on revient sur ce recul-là. Donc non, je crois qu'il y a... En réalité, Hollande ne s'est pas engagé vis-à-vis des travailleurs réellement sur ce qui est le plus important pour eux, c'est-à-dire sur l'emploi et sur les salaires.
Nathalie Arthaud, vous nous parliez des liens entre François Hollande et plus largement toute la gauche et les grands patrons à l'instant. Par exemple, la présence de Pierre Berger ce matin à la cérémonie d'ouverture, la cérémonie d'investiture de François Hollande à l'Élysée. Est-ce que ça vous irrite?
Mais c'est pas une question de liens amicaux ou là-dessus on sait que Nicolas Sarkozy battait quand même tous les records mais c'est pas seulement une question de liens amicaux ou de proximité, c'est surtout le fait que ce sont eux aujourd'hui qui dirigent la société, c'est ceux qui ont l'argent, c'est ceux qui possèdent le capital et c'est ceux qui finalement font la pluie et le beau temps dans l'économie. Ce sont les rois des temps modernes aujourd'hui, les capitalistes. Les capitalistes, qu'ils soient dans la finance ou dans l'industrie, ce sont les rois des temps modernes. Alors bien sûr, il y a des sous-fifres qui font le théâtre politique, qui s'agitent sur le devant de la scène, que ce soit Sarkozy, Hollande ou d'autres. Mais en réalité, ils sont pieds et poings liés à ces puissances-là. Et quand ils sont au gouvernement, qu'est-ce qu'ils font si ce n'est gérer les affaires de ces gens-là? Et évidemment, les intérêts des travailleurs sont toujours bien sûr laissés de côté. Moi, ce que nous disons, nous, Lutte Ouvrière, c'est que voilà, les travailleurs, il faut qu'ils se battent pour eux-mêmes, pour leurs intérêts. Il ne faut pas qu'ils comptent sur quiconque et sûrement pas sur les présidents de la République ou sur les ministres ni même sur les députés. Il faut qu'ils comptent sur eux-mêmes, sur leurs forces collectives, qu'ils se battent et qu'ils fassent entendre leurs revendications. Voilà, ce dont ils ont besoin. Aujourd'hui, il y a besoin de créer des emplois, il y a besoin de travail, il y a besoin aussi d'augmenter les salaires, et il y a besoin évidemment d'assurer tous les services publics, de pouvoir être soignés, de pouvoir être éduqués à la mesure du 21e siècle.
Dans la deuxième partie, Nathalie Arthaud, on va parler bien sûr de l'après, ce que vous comptez faire évidemment dans les années qui viennent. Maintenant, un mot encore sur cette cérémonie. Il va y avoir un hommage tout à l'heure à Jules Ferry, un autre à Marie Curie. Ce sont des symboles qui vous plaisent ?
Jules Ferry, non, c'est évident que, y compris sa dimension de partisan du colonialisme, fait que, de toute façon, c'est pour moi pas du tout une référence et pas du tout un symbole.
C'est malgré tout le père de l'école libre.
Alors, le père de l'école gratuite, publique et obligatoire, ça c'est vrai, mais là encore, plus on met en avant des symboles, plus finalement c'est une façon de cacher le fait que... on fera rien dans la réalité. Et y compris sur le terrain de l'école publique, qui a encore une fois beaucoup reculé. Aujourd'hui, dans des quartiers populaires, beaucoup de familles se posent la question, y compris d'envoyer leurs enfants dans l'école publique, en se disant, on sait qu'il y a de moins en moins de remplaçants, on sait que c'est difficile, que les écoles, les classes sont trop nombreuses, sont surchargées, que les enseignants sont bien souvent débordés. Donc, y compris cette école publique, elle est remise en cause. Et je crois que c'est pas de symbole dont on a besoin là, c'est de mesures concrètes, réelles. Je crois qu'il faut embaucher dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées, et pas 12 000 enseignants par an comme Hollande s'y est engagé, parce que embaucher 12 000 enseignants par an comme Hollande s'y est engagé, ça ne permet même pas de reconstruire ce que Sarkozy a démoli. Parce que lui, il a supprimé 80 000 postes dans l'éducation nationale. Donc, il faudrait en réalité faire le compte de tout ce dont il y a besoin, rétablir évidemment les enseignants qui aidaient les élèves en difficulté dans les quartiers populaires, faire le compte de tout cela et embaucher à la mesure à la mesure des besoins.
Midi 11, vous écoutez Sud Radio Plus, l'Esprit Libre à Paris 99.9, le cœur au Sud avec Nathalie Arthaud. Revient tout de suite après la pub.
Christophe Combarieux, le cœur au Sud, sur Sud Radio Plus.
Midi 13, vous écoutez Sud Radio Plus, l'Esprit Libre, et on retrouve l'invité du cœur au Sud avec Jean-Baptiste Marteau, Louis Morin. C'est Nathalie Arthaud, la porte-parole de Lutte Ouvrière.
Nathalie Arthaud, on a le président de la République, faut l'appeler comme ça.
On l'appelle comme ça depuis 2 heures.
Qui se rend à Berlin cet après-midi. Qu'est-ce qu'il doit dire à la chancelière, selon vous?
Alors là, d'abord... moi, je crois que là, il a dit et redit qu'il fallait de la croissance et que c'était ça sa grande différence avec la droite, et il a fait finalement une partie de sa campagne là-dessus.
Il va négocier.
Il cherche à négocier, etc. Alors moi, je ne sais pas. Est-ce qu'il y arrivera? Est-ce que finalement un volet sur la croissance sera rajouté aux différents traités européens? Moi, je n'en sais rien. Dans tous les cas, c'est pas parce qu'on va rajouter un volet sur la croissance que ça va la faire revenir. Et la réalité de la situation économique, c'est que la crise, elle s'aggrave, qu'on n'en sort pas, et que, y compris la sortie de la Grèce de l'euro, c'était encore un tabou il y a 15 jours de cela, aujourd'hui tout le monde en parle, on voit que la crise effectivement s'aggrave en Grèce, qu'elle s'aggrave en Espagne, qu'elle s'aggrave au Portugal, que les marchés financiers vont continuer cette pression, on voit que la spéculation continue, que jamais les taux d'intérêt sur la Grèce et sur l'Espagne ont été aussi élevés, et que l'Allemagne, elle, au contraire, mise plutôt sur l'Allemagne. Alors on voit que voilà, La situation ne s'arrange pas. La crise continue. Et c'est ça qui va peser effectivement dans les mois et dans les années à venir.
Votre position n'a pas changé. Vous restez totalement contre une éventuelle sortie de la Grèce de la zone euro. Ce serait un désastre pour l'ensemble des Grecs.
Ça serait une catastrophe pour les Grecs, mais aussi pour ça serait une aggravation de la crise européenne. Ça serait une aggravation de la crise économique tout court en réalité. Ça serait une catastrophe pour tout le monde. Surtout que l'on sait que dans cette crise, ceux qui dirigent, qui d'ailleurs en sont responsables, ils ont les moyens de la faire porter sur d'autres qu'eux. Ils ont les moyens justement de faire porter les conséquences de la crise sur les travailleurs. Ils ont les moyens d'aller chercher dans les finances publiques de l'argent. Eux, ils savent se faire ouvrir. Les caisses publiques, ils savent récupérer l'argent. On a vu quand même les financiers, toutes les banques être sauvées dans cette crise. Donc eux, cette crise, on sait aussi qu'ils vont chercher, qu'ils vont s'en sortir, mais en faisant peser tous les efforts et tous les sacrifices aux populations, aux travailleurs. Donc effectivement, là, ça veut dire, si cette crise s'aggravait, ça voudrait dire que la guerre des financiers, du capital sur les pauvres, va encore être de plus en plus violente. Et moi, j'espère que dans ce cadre-là, il y aura aura des réactions et qu'on se laissera pas faire.
Mmh. Nathalie Arthaud, cette crise des dettes publiques, est-ce que c'est pas avant tout dû à une irresponsabilité des politiques, des hommes politiques, depuis plusieurs générations, qui n'ont pas fait attention à tenir leurs dettes?
Alors, effectivement, quand on parle de la dette, il faut toujours se poser la question de d'où elle vient, hein, qui a fait cette dette. Et effectivement, sous la mandature de Sarkozy, quand on voit qu'il y a 500 milliards de dettes supplémentaires, hein, supplémentaires par rapport à les cinq années précédentes, il faut quand même se demander où ils sont partis. Hein, parce que on a vu aussi que ils sont pas partis ni dans l'éducation ni dans les hôpitaux, ils sont pas partis dans les retraites, ils sont
mais
pas partis dans les salaires.
La crise des subprimes est passée par là et
donc
a touché
voilà,
l'ensemble de l'Europe.
C'est la crise, c'est les financiers, c'est les grands groupes industriels qui ont demandé des cadeaux, en veux-tu en voilà, qui ont continué de dire qu'ils avaient besoin de subventions, qu'ils avaient besoin d'exonérations et qui en ont eu. Ça a été effectivement l'État qui a servi de vache à lait, hein, à tous les industriels, bon, de l'armement, de l'automobile, etc. Ça a été ça, hein, ces 500 milliards de dettes. Alors, voilà.
Selon vous, Nathalie Arthaud, l'État n'aurait pas dû faire une politique de relance par l'investissement, mais une politique de relance par la consommation?
Moi, ce que je
directement
sais, c'est que
sur les consommateurs?
L'État et les dirigeants politiques, quand il s'agit de vider les caisses publiques pour que l'argent atterrisse dans les poches de Dassault ou dans les poches de Bouygues ou dans les poches du grand patronat, il n'y a jamais de problème. Ils trouvent toujours de quoi. Hein, on a trouvé de quoi faire la guerre en Afghanistan, la guerre en Libye. Hein, cet argent-là, voilà, on le trouve toujours. Donc vider les caisses et creuser le déficit pour ça, ça leur pose jamais de problème. À chaque fois, il y a un problème quand il s'agit effectivement de permettre à la population de se soigner, de s'éduquer, de vivre un peu moins mal. Là, il n'y a jamais d'argent. Et là, on nous parle toujours des déficits. On nous parle toujours de surtout pas creuser la dette. Alors, voyez, il y a deux poids, deux mesures. Ce qu'on voit, c'est que voilà, c'est un État et des dirigeants politiques qui sont au service des puissances de l'argent. Et à chaque fois qu'ils avancent leurs revendications, eh bien, ces gens-là, ils sont servis. Alors, évidemment, ensuite, ça creuse des dettes qu'on demande. On demande ensuite à toute la population de les payer, ce que je trouve absolument injuste. Moi, je dis qu'il n'y a pas non à accepter de payer une dette qui est la dette du patronat et qui n'est pas la dette des travailleurs.
Ouais. Nathalie Arthaud, là, François Hollande, comme tous les dirigeants européens, se retrouve dans cette obligation de ne pas accentuer la dette et de la résorber même. Comment on fait? On augmente les impôts sur les plus fortunés obligatoirement, où on essaie un peu de réduire les dépenses?
Pour moi, c'est un des indices que, effectivement, Hollande dirigera encore une fois au service de cette puissance financière,
il va
justement.
Augmenter les impôts.
Quand Hollande explique que lui, effectivement, il acceptera ce racket, finalement, de la part des banques, hein, parce que, y compris ce qui est scandaleux dans cette affaire-là, c'est qu'on s'est endetté pour sauver le système bancaire, mais on s'est endetté auprès de qui? Auprès des mêmes banques qui ont imposé des taux usuraires par rapport à ce qu'elles payent quand elles empruntent à la Banque Centrale Européenne. Alors voyez ces banques, et bien finalement, d'abord elles empochent le beurre et l'argent du beurre, hein, et c'est un véritable racket qui est fait sur l'État. Et Hollande dit, eh bien moi j'accepte de continuer ce jeu-là, hein, j'accepte de payer des intérêts aux banques, j'accepte de les rembourser. Alors déjà, ça c'est un premier élément qui nous fait dire que voilà, il sera un bon serviteur effectivement de la finance et des plus riches, de la grande bourgeoisie, Hollande. Alors voilà. Après, en réalité, il va nous expliquer que il va mener une politique juste en demandant des sacrifices partagés. Voilà. Mais ça encore, c'est une escroquerie. C'est une escroquerie parce que les sacrifices sont pas équitablement partagés, c'est pas vrai. Et c'est pas parce qu'on va faire payer un peu plus d'impôts aux plus riches que ça sera partagé. Écoutez, dans cette crise, les travailleurs, ils ont reculé sur tout. C'est des millions de travailleurs qui ont perdu leur emploi, ce qui leur permettait de vivre. Des millions d'autres qui sont confrontés à des petits boulots qui permettent pas de joindre les deux bouts. Et puis, c'est des reculs, sur les droits à la retraite, sur les droits à la santé. C'est des difficultés pour quotidiennes. Et on va dire, eh bien voilà, tout ça doit continuer parce qu'il faut que les sacrifices soient partagés. Oui, mais... Non, pas d'accord. Moi, je serais effectivement pour que la dette soit remboursée intégralement par les plus riches, par la bourgeoisie, oui. Qu'ils se débrouillent, mais que ce soit eux qui payent.
Nathalie Arthaud, selon vous, François Hollande fait un pas vers la gauche et finalement vers une imposition plus importante des plus riches, mais ne va pas assez loin. Et les 75%, c'est qu'une illusion?
Ah oui, mais bien sûr, c'est même très symbolique, et lui-même l'a dit. Lui-même l'a dit.
C'était
très symbolique que ça ne faisait quasiment rentrer rien dans les caisses de
Est-ce
l'État.
Est-ce que c'est confiscatoire?
Hein? Mais non, confiscatoire. Ouais, écoutez, confiscatoire. Plus d'un million, effectivement, par an. Et sur la tranche, c'est confiscatoire. Mais écoutez, non. Moi, je pense que ceux qui touchent ce genre hein, de sommes...
On a le droit de considérer qu'il faut confisquer les plus hauts revenus au-delà d'un million d'euros.
Oui.
On a le droit de...
Ah oui, non, mais moi, la confiscation, ça ne me gêne pas du tout. Hein.
Mais selon vous, ce n'est pas confiscatoire encore, 75%?
Mais pas du tout. Donc moi, je pense qu'y compris ceux qui touchent ce genre de fortune, c'est qu'ils confisquent en réalité des salaires dignes. C'est qu'ils confisquent aux travailleurs la possibilité d'avoir, de recevoir leur dû. Vous voyez, c'est, la confiscation, elle est dans l'autre sens. Qu'on fasse payer un peu plus d'impôts à ces gens-là, moi, je trouve ça tout à fait normal. Et je pense que ce n'est même pas assez. C'est pas suffisant.
Donc, on va jusqu'à quelle somme?
Non, mais
jusqu'à
c'est
100%
pas...
à partir d'un million.
Nous, notre politique, c'est surtout de dire que finalement tous ces grands capitalistes, toutes ces grandes fortunes qui parasitent le travail de millions de travailleurs, eh bien, il faut combattre ça, il faut combattre ce parasitisme-là, et que ces grands groupes qui font des millions voire des milliards de profits, il faut absolument les forcer, les obliger à ce que ces profits soient se retrouvent dans les salaires, se retrouvent dans les embauches.
Comment on les force?
Alors, moi, je pense qu'effectivement, il faut d'abord interdire les licenciements. Hein, tous ces grands groupes Peugeot Citroën, dont on fait beaucoup de publicité aujourd'hui, effectivement, avec la DS5, prévoient quand même de fermer l'usine d'Aulnay. Quand même de fermer une usine à Madrid. Prévoient d'en fermer une dans le Nord, voilà. Alors, écoutez, c'est interdire les licenciements, forcer Peugeot Citroën de répartir l'activité dans son groupe autrement et de consacrer une partie des profits, justement, à sauvegarder les emplois et les salaires. Et puis, les obliger à embaucher les apprentis, les obliger à répartir le travail. C'est quand même pas normal que ceux qui ont un travail croulent sous la charge et que d'autres soient condamnés au chômage. Donc oui, on oblige à ce que les profits servent à payer des salaires, et y compris à les augmenter. Voilà, c'est avant tout ça. C'est, parce que vous comprenez ça. Bon, que les travailleurs se disent, ah ben voilà, super, mon patron, il va payer plus d'impôts, mais qu'est-ce que ça va changer pour lui? Est-ce que ça va l'aider à payer ses factures, à payer son loyer? Est-ce que ça va l'aider à remplir son frigo? Je ne crois pas. Donc non, il faut absolument imposer que les profits qui soient réalisés dans l'entreprise, aillent aux travailleurs.
Midi 24, vous écoutez Sud Radio plus l'Esprit Libre, 99.9, la fréquence parisienne, le cœur au Sud avec Nathalie Arthaud revient tout de suite après la pub.
Jusqu'à 14h, Christophe Combarieux, le cœur au Sud... sur Sud Radio Plus.
Midi 25, vous écoutez Sud Radio Plus, l'Esprit Libre, et on retrouve l'invité du Cœur au Sud avec Jean-Baptiste Marteau, Louis Morin, c'est Nathalie Arthaud, la porte-parole de Lutte Ouvrière.
Oui, parce que dans 4 semaines, un peu moins maintenant, il y a on revote,
voilà.
Et oui, élections législatives, je vais arriver à le dire, pour les députés. Comment vous les abordez, ces élections, Nathalie Arthaud?
Eh bien, de la même façon que nous avons mené cette campagne pour la présidentielle, hein, c'est-à-dire que pour nous, le combat continue. Hein, c'est pas parce que Hollande, c'est pas parce que Hollande est élu, hein, que les travailleurs doivent se taire. Et je dirais même au contraire, il faut au contraire qu'ils se manifestent, c'est-à-dire qu'ils disent ce dont eux, ils ont besoin. Hein, depuis que Hollande a été élu, on voit effectivement qu'il est pris d'assaut par les chefs d'État, par les financiers, ça c'est sûr que les porte-parole du grand patronat l'entourent. Hein, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va subir cette pression-là, et c'est une évidence. Et tout le monde, hein, tous les chefs d'État, ils sont sous cette pression-là en permanence. Mmh. Donc il faut absolument que les travailleurs soient conscients qu'ils doivent dire leurs revendications, dire ce qu'il leur faut pour eux, pour mieux vivre. Hein, sinon, effectivement, ils seront laissés pour compte. Mmh. Voilà, il faut... Je sais que parmi les travailleurs et dans la population, il y a un soulagement d'avoir de s'être débarrassé de Sarkozy et
d'avoir un président de gauche aussi.
Un certain nombre donc sont reconnaissants vis-à-vis de Hollande. Bon, mais il faut absolument pas que Hollande se sente quitte. Pour autant,
il faut pas qu'il y ait d'état de grâce.
Il faut que Hollande sache, il faut pas qu'il y ait d'état de grâce. Non, ça c'est sûr, parce qu'il n'y en aura pas d'état de grâce pour les marchés financiers. Les marchés financiers vont pas lui laisser de temps. Hein, la réalité, c'est que là, ils continuent de peser, ils continuent leurs spéculations, ils continuent de d'étrangler la Grèce, mais en réalité tous les États. Hein. Donc, il n'y a pas d'état de grâce de ce côté-là. Il ne faut pas que les travailleurs, effectivement, attendent. Il faut au contraire qu'ils se mobilisent. Alors, ils peuvent se manifester leur point de vue, leurs idées dans les élections. Et moi, je les inviterai, bien sûr, à voter pour les candidats de lutte ouvrière.
Il y en aura combien ?
Pour dire, il y en aura 552, c'est-à-dire dans toutes les circonscriptions de métropole, pour dire que, oui, il faut absolument se battre pour imposer l'interdiction des licenciements, pour imposer qu'il y ait des embauches dans les services publics, dans les hôpitaux, dans les écoles, dans les transports, se battre pour des augmentations de salaires, pour monter le SMIC, ouais. mais aussi pour augmenter tous les salaires qui suivent au moins l'augmentation des prix. Et puis se battre aussi pour qu'il y ait un contrôle de la part des travailleurs sur ce qui se passe dans les entreprises et sur les profits qui sont réalisés, qu'on supprime ce secret des affaires, ce secret commercial, ce secret industriel. Et le procès du médiateur s'est ouvert hier. Eh bien, qu'il n'y ait plus ce secret des affaires, je pense que ça aurait été justement la possibilité donnée à bien des travailleurs de ce laboratoire de dire la réalité des choses sur ce médicament qui, en fait, était tué.
Et de tirer la sonnette d'alarme.
Absolument.
Nathalie Arthaud, vous êtes candidate vous-même à Pantin et à Aubervilliers pour les législatives. Quels sont les retours que vous avez du terrain ?
C'est vrai, j'ai lancé ma campagne il y a une semaine et c'est des retours positifs, voilà. Et je suis plutôt contente, de voir que cette campagne électorale que j'ai menée, elle a été entendue, et elle a touché effectivement un certain nombre de travailleurs, de chômeurs qui ont été contents d'entendre effectivement ce que j'ai défendu. Et c'est ces retours-là que j'ai. Alors bien souvent, ils m'expliquent n'ont pas voté pour moi, qu'ils ont voté utile, qu'ils ont préféré l'élection de François Hollande. Et en même temps, ils disent qu'ils sont conscients qu'effectivement, pour les travailleurs, c'est les luttes qui comptent.
Ils vont recommencer dans 4 semaines.
Eh bien, je les convainc que non, que ça c'est fait. Sarkozy, il est éliminé et qu'il faut absolument se saisir de ce vote-là, justement, pour dire, pour avancer ses revendications. Pour exprimer toutes ses idées, toutes ses convictions, et pour dire à Hollande qu'on le surveille et surtout lui avancer encore une fois nos exigences à nous, les travailleurs.
Selon vous, Nathalie Arthaud, il faudrait que François Hollande n'ait pas de majorité absolue à l'Assemblée nationale ?
Je pense que l'Assemblée nationale, vous savez, on va nous expliquer encore une fois que c'est l'élection cruciale, que tout dépend de ça. On va encore une fois nous sortir le grand jeu là. La réalité, c'est que ce n'est pas ça. De Gaulle parlait des députés comme de ces godillots. L'Assemblée nationale, c'est beaucoup une chambre d'enregistrement.
Alors, et en même temps, s'il n'y a pas de majorité absolue, ça peut devenir vite un endroit, un lieu de conflit politique et de débat très important.
Oui, enfin, on sait quand même que les choses, elles ne se passent pas comme ça, qu'évidemment, il y a tout lieu de penser qu'il y aura une prime, au camp de Hollande, qu'il a ses alliés, Europe Écologie Les Verts, peut-être une partie du Front de Gauche, sans doute. Voilà, la réalité, c'est que ce qui sera important, moi, dans cette élection, c'est pas d'envoyer un député socialiste de plus ou de moins, c'est justement de faire sentir la pression, que les travailleurs fassent sentir leur pression, fassent sentir qu'ils sont là, qu'ils sont vigilants, qu'ils ne se laisseront pas faire, de façon à ce que, d'une certaine mesure, établir déjà un rapport de force.
Mais vous n'avez pas d'espoir d'avoir des députés élus, vu le mode de scrutin ?
Non. C'est sûr que c'est un scrutin, justement, encore une fois, qui quand même va leur assurer la majorité. Voter pour les candidats de lutte ouvrière, ça voudra dire aussi donner de la force, justement, à un programme de lutte, la force à des idées de combat, la force de la force et du crédit à tous ceux qui sont convaincus que, voilà, dans la situation actuelle, ce qu'il faut, c'est mener un bras de fer, c'est rendre les coups au patronat, c'est ne pas accepter d'être toujours ceux qui sont sacrifiés, c'est se battre, parce que bien sûr que c'est la crise, bien sûr que il y a un problème économique, mais rien, c'est écrit nulle part. que c'est aux travailleurs de payer et de reculer. On peut aussi faire reculer et faire payer ceux qui sont responsables, ceux qui sont richissimes, ceux qui ont toute une fortune et un matelas, donc un matelas pour eux. On peut les faire payer. Hein. Donc voilà, c'est défendre cette politique, c'est la faire, voilà, la renforcer. Donc tous ceux qui voteront dans cette direction-là, eh bien, nous aideront à nous faire entendre.
Et justement, sur le plan social, Nathalie Arthaud, est-ce que vous pensez que le mandat de François Hollande sera calme ou qu'au contraire, il sera assez animé avec des manifestations, avec des grèves, parce que justement, il ne tiendra pas ses promesses?
Mais c'est ce que j'ai dit pendant toute la campagne présidentielle, c'est que c'est même pas Hollande qui contrôle, il contrôle rien de la situation. Absolument rien. Il est incapable de dire ce qui va se passer dans 3 ou dans 4 mois. Mais lui, comme les autres, mais comme Merkel, comme Obama, exactement comme tous les autres. Et de la même façon que Sarkozy n'était pas celui qui contrôlait la situation et qui avait toutes les cartes en main. Ça, c'est pas vrai. La situation économique, elle leur échappe. Elle leur échappe. Hein. Et elle échappe y compris aux experts économiques, y compris aux financiers. Donc voilà.
Donc
si
la situation
ça
se joue dans la rue.
Bah, si, elle se joue dans le rapport de force, effectivement. Ceux qui dirigent la société, qu'est-ce qu'ils veulent? Ceux qui contrôlent toutes les grandes entreprises, toutes les finances, ils veulent continuer, je pense qu'ils vont continuer cette politique, effectivement, eh bien, de garantir, eux, leur situation, de garantir leur sinécure, de mettre à l'abri leur fortune. Et pour ça, effectivement, ils vont écraser les travailleurs et la population. Et
ils vont, donc il faut réagir.
Et ça va être des plans sociaux, ça va être des fermetures d'entreprises, de la même façon que ça l'a été depuis que la crise elle a démarré. Donc il faut effectivement empêcher tout ça. Et la seule façon de l'empêcher, c'est un rapport de force, effectivement, dans la rue, dans les grèves, dans les manifestations. C'est toute l'histoire des travailleurs.
Nathalie Arthaud, quel est votre rôle politique maintenant? Vous êtes dans l'opposition ou dans une majorité un peu élargie de toute la gauche?
Bien sûr que je suis dans l'opposition, bien sûr que je suis dans l'opposition, parce que la réalité c'est que ce gouvernement, il sera la courroie de transmission, tout autant qu'avant, mais ce gouvernement, il sera la courroie de transmission des ordres, des dictates patronaux, voilà. Comme tous les autres. Et de ce point de vue-là, nous, on n'a rien à voir avec ça. On veut en aucun cas participer à cette escroquerie de faire croire que, on va quand même ménager un peu les travailleurs, parce que ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Dans une période de crise, c'est, ça ne peut pas être là, ça peut pas être vrai.
Louis, une dernière toute petite question.
Nathalie Arthaud, par oui ou par non, parce qu'il vous reste 5 secondes. Est-ce que vous pourriez à nouveau être la candidate de lutte ouvrière en 2017?
Oui, même si mes yeux ne sont pas rivés sur la présidentielle, mais plutôt, comme vous l'avez compris, sur les luttes et les manifestations.
12h35, merci beaucoup Nathalie Arthaud. Je rappelle que vous êtes la porte-parole de Lutte Ouvrière. Merci.
Merci. Vous...